Michel, c'est là que je commence. Romains 10, verset 1, s'il vous plaît. Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice, ils ne sont pas soumis à la justice de Dieu. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas à ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ, ou qui descendra dans l'abîme, c'est faire remonter Christ d'entre les morts. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons.
Merci. C'est toujours bon de voir quelqu'un lire le texte. J'aime bien ça. Ça va bien ce matin? Vous savez, lorsque... on quitte un chapitre, ou si on peut dire, on quitte toute une section de Romains. Ça fait quoi, 5 semaines? On a eu tout le mois de mai avec des spéciaux, etc. Est-ce que 4 semaines, hein? Ça fait 4 semaines qu'on n'a pas été dans Romains. Et je vous dis, pour avoir une bonne herméneutique, c'est le contexte des rois. Puis je me souviens, souvenez-vous du contexte, si vous en souvenez du contexte. Qu'est-ce qu'on est en train d'étudier, là? Hein? Ouais, mais dans 9, 10 et 11, c'est quoi? Hein? Israël? Bon, tournez s'il vous plaît dans Ésaïe 46, verset 9. Mon titre peut-être semble un peu bizarre peut-être pour certains, la souveraineté de Dieu et la compassion pour les perdus. Et il y a tellement d'encre, tellement de livres, tellement d'articles qui ont été écrits pour Romains 8, 9, Romains 9, 10 et 11, c'est-à-dire 9, c'est quoi? Romains quoi? 9, 10 et 11. C'est toute une section. J'aimerais ça qu'on lise à partir du verset 9 d'Ésaïe 46. Ésaïe nous dit ceci. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, Ancien Testament. Regardez en arrière. Car je suis Dieu, il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Wow! On ne peut pas comparer Dieu à personne. Il est unique. Verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver. Est-ce que ça vous surprend de Dieu, ça? Qui annonce dès le commencement tout ce qui doit arriver? Êtes-vous surpris par cette phrase-là de notre Dieu, de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament? Non? OK. Et longtemps d'avance, ce qui n'est pas encore accompli. Wow! C'est même pas arrivé encore. Longtemps d'avance. Nous, on est comme pris dans l'espace-temps, mais Dieu est en dehors du temps. C'est tout un Dieu, ça. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Êtes-vous surpris de ça? Un Dieu comme ça? C'est Dieu que nous avons. C'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et j'exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture, je fais approcher ma justice, elle n'est pas loin, et mon salut, il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion et ma gloire sur Israël. Êtes-vous surpris de ça? Au travers des années, on réalise comment est-ce que Dieu n'est pas dépassé par aucune situation. Et pourtant, lorsqu'on arrive dans cette section 9, 10 et 11, il y a tellement de littérature, il y a tellement de choses qui ont été écrites, et là, on commence à étiqueter les gens, calvinistes, on prend des mots, prédestination, on prend des mots, arménien, on prend, et là, on commence à discuter qu'est-ce que Dieu est en train de faire avec les chapitres 9, 10 et 11. Et je crois qu'on perd de vue un petit peu le fond de toute l'histoire. Et l'apôtre Paul veut écrire à ses Romains qu'il n'a pas vu encore, puis il met la gomme, il met tout le contenu théologique dans cette lettre. Il est en train de nous expliquer, en fin de compte, quelque chose d'extrêmement important qui concerne Israël. Comment ça marche avec Israël et l'Église? Comment ça marche avec la gloire d'Israël et la gloire de l'Église? Qu'est-ce qui se passe maintenant que Paul arrive avec l'Évangile, que le Messie est arrivé? Et on pourrait se poser la question, mais pourquoi qu'on parlerait d'Israël le matin? C'est de l'histoire. C'est aussi du vécu, parce qu'on connaît, nous, hein? Moi j'en connais, des assédimes à Montréal qui attendent le Messie. J'ai posé la question, c'est quoi la prochaine étape? C'est le Messie. On attend le Messie. Et je crois qu'ici, l'apôtre Paul qui, dans ces chapitres, essaie d'expliquer aux Grecs, d'expliquer aux non-juifs et aux juifs le plan merveilleux du salut de Dieu de l'Évangile. Et j'aimerais qu'on commence au début pour introduire ce matin, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Tout au long de l'épître, il va rappeler cela. Il veut expliquer c'est quoi le rôle du juif et du grec. Quelle est la différence entre les deux? Y en a-t-il une différence entre les deux en ce qui concerne le salut de Dieu? La justice de Dieu. Comment devenir juste devant Dieu? Comment un jeune homme peut-il se présenter juste devant Dieu? Et partout, lorsqu'on continue, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu. Par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et Paul va nous emmener dans cette épître à réfléchir sur le rôle d'Israël, le rôle des non-juifs. Dans Romains 2,9 va dire « tribulation et angoisse sur tout homme qui fait le mal ». Sur le juif, premièrement, puis le grec. Il va nous dire aussi un peu plus loin, dans 2,10, « Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif, premièrement, puis le grec. » Il nous amène dans le chapitre 9, 10 et 11, tranquillement. Dans le chapitre 10, 12, « Il n'y a donc aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisque tous ont un même Seigneur qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. » Alors, on voit que l'apôtre, dans ces chapitres qui sont tellement importants, de comprendre que dans son cœur des cœurs, Il n'est pas en train de dire à Israël, « Israël, t'es floché, tu ne vaux plus rien. » Mais au contraire, il est en train d'emmener les lecteurs à réfléchir sur ce grand salut de Dieu. Si Dieu a choisi Israël pour être son peuple, et s'il leur a donné l'alliance, la gloire, les promesses, les patriarches, d'où est né, selon la chair, le Messie, hein, c'est 9-1, et qu'Israël ensuite a rejeté ce Messie et a été séparé de Christ, alors les promesses de Dieu subsistent-elles? Sont-elles vaines? Parce que Dieu a fait des promesses à Israël. Dieu a fait des promesses. Dans les trois couches d'élection de Calvin qui nous mentionne, la première couche d'élection, c'est parmi tous les peuples sur la planète Terre. Dieu a choisi un peuple, Israël. Parmi Israël, la deuxième couche d'élection, Dieu a choisi dans sa souveraineté. Dieu a choisi une tribu. C'est qui? Judas. Et dans sa troisième couche d'élection, Dieu, dans sa souveraineté, a choisi l'Église. Dieu a fait des promesses. Et c'est certain que le diable fait tout ce qu'il peut pour faire mentir Dieu, mais ça n'arrivera pas. Alors, la réponse est là. Paul veut nous dire, puis il voit tout ce qui se passe et il réalise toutes les questions qu'on va avoir lorsqu'on va lire ces trois chapitres. Puis il va nous le dire dans 9-6, n'est-ce pas, que pas tout de la postérité d'Abraham. Nous ne sommes pas tous de la postérité d'Abraham. Ce n'est pas tous ceux qui descendent d'Israël qui sont israélites. Il va nous parler que Dieu choisit. Il a choisi Jacob et non Ésaü. Dieu est souverain. Êtes-vous troublés par cela? On n'était pas troublés dans Isaïe tout à l'heure. Dieu choisit. Dieu est souverain. Il va nous dire aussi que Dieu choisit de faire miséricorde et d'avoir compassion à qui il veut. Êtes-vous troublés par ça? Dieu, c'est Dieu. Est-ce que vous préférez un Dieu comme Aladdin? Qui connaît l'histoire d'Aladdin avec sa lampe magique? Personne ne connaît ça. Vrai? Vous connaissez? Imaginez, là, vous avez un Dieu comme Aladdin. Vous arrivez avec votre petite, hein, votre petite lampe, puis vous frottez ça chez vous, puis vous avez tout ce que vous voulez. Ah, je veux ceci. Je veux cela. Je veux cette fille. Je veux ce gars. Hein? Je veux cette job. Je veux cette sorte de santé. Je veux cette sorte de circonstance dans ma vie. Et là, Dieu est comme un génie qui fait tous vos désirs. Est-ce que vous voulez un Dieu comme ça? C'est très plate, un Dieu de même. Hein? Puis probablement que ceux qui sont sans Dieu ont leur propre Dieu, puis ils sont comme ça. Puis ils frottent leurs lampes chez eux, puis ils essayent d'avoir tout ce qu'ils veulent, puis ils n'ont pas pareil. Parce qu'il y a une pogne au bout. Alors, Dieu fait ce qu'il veut. La souveraineté de Dieu. Le désir du cœur et la prière de l'apôtre. Vous savez, c'est important de réaliser que Dieu appelle. Dieu appelle et c'est lui qui choisit. Et l'apôtre Paul va dire, il est tellement émotionnel, l'apôtre Paul, le chapitre 9. Souvenez-vous, il y a eu des prédications là-dessus, je ne vais pas répéter, mais c'est important qu'on réalise le cœur de l'apôtre Paul là-dedans. Et la prière de Paul qui dit, si on serait dans un autre univers, là, et s'il y aurait une autre manière de le faire, moi-même, j'irais mourir pour eux afin qu'ils soient sauvés. Mais ce n'est pas le cas. Une compassion énorme, une tristesse, un chagrin continuel pour ceux de sa race, qui reconnaît un zèle sans intelligence, qui ont rejeté leur Messie. On voit son désir dans 10.1, « Je désire de tout mon cœur qu'il soit sauvé. » Mais Paul, si tu fais là, c'est Dieu qui choisit. Pourquoi prier pour leur salut? Paul prie pour eux. Voyez-vous, il n'y a pas de, contradiction entre Dieu choisit, Dieu appelle, Dieu sauve. Et nous devenons des nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les 6 prochains mots disent quoi? Et tout cela vient de Dieu. Et dans la parole de Dieu, on voit que Dieu révèle sa pensée. Là. J'aimerais parler des dangers théologiques. Le premier danger théologique, lorsqu'on pense et qu'on réalise et qu'on voit partout dans la Bible, en passant, hein, c'est pour ça que j'ai commencé avec Isaïe, on voit partout dans la Bible la souveraineté de Dieu. Partout, partout. Et l'apôtre, quand il écrit ses chapitres, il anticipe, à fin de compte, les réactions des gens lorsqu'ils vont lire, puis il va le dire lui-même. Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Oh, là, on décide de dire que Dieu n'est pas juste. Loin de là. La deuxième chose qui est vraiment là, et j'en ai pris deux là, mais il y en a plusieurs, et ça serait la responsabilité de l'homme. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Ce qui est, qui résiste à sa volonté. Qui peut résister à sa volonté? Pourquoi qu'il blâmerait? Une belle phrase, je crois que j'ai ramassé ça avec D.A. Carson dans la théologie de la souffrance, que la, et c'est vraiment partout dans la parole, la souveraineté de Dieu n'amoindrit pas ou ne dévalue pas la responsabilité de l'homme. C'est deux lignes qui se chafaudent, qui vont parallèles. Elles ne se croisent jamais et elles ne se touchent jamais. Mais c'est deux vérités parallèles. Et l'apôtre Paul anticipait les questions qu'on a dans notre cœur. Je me rappelle, l'année passée, j'ai rencontré une famille d'une autre assemblée qui était en larmes, qui était troublée par le fait que leurs enfants, c'était possible, qu'ils n'étaient pas prédestinés et qu'ils n'étaient pas allés en enfer. C'est intéressant, hein? Un problème de même. Puis là, oui, 1 Corinthiens 7, nos enfants sont sanctifiés, qui ne veut pas dire sauvés, mais qui veut dire mis à part pour Dieu, d'une situation à part, notre privilège d'annoncer l'Évangile. Mais c'était vraiment un problème pour eux. C'est un piège théologique, c'est un problème, un danger, lorsque on prend ces deux choses-là et on les applique mal. Il y a le danger émotionnel. La doctrine de la souveraineté de Dieu pourrait nous conduire à ne pas ressentir la compassion pour ceux qui périssent. Pourquoi évangéliser? Ils vont mener pareil. D'ailleurs, il y a des places aux États-Unis, je n'aimerais pas la place, mais il y a des places où, vu que tout le monde est choisi d'avance, pourquoi évangéliser? Pourquoi investir dans l'évangélisation? C'est un mal nécessaire, oui, mais pourquoi faire ça? Voyez-vous? L'autre danger émotionnel, c'est la doctrine de la souveraineté de Dieu pourrait nous conduire à ne pas désirer qu'ils soient sauvés, ceux qu'on a sur notre liste d'épicerie. On va en parler un peu plus loin. Et un autre piège émotionnel, un danger, c'est la doctrine de la souveraineté de Dieu pourrait nous conduire à ne plus prier pour les âmes perdues. C'est un danger. Mais l'apôtre Paul anticipait toutes ces choses-là. Et c'est pour cela qu'il prend la peine d'expliquer ces choses et de mettre les choses en perspective. Et c'est pour cela que le chapitre 10 va commencer comme le chapitre 9 avec des larmes pour les perdus. Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Mais ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Le cœur de l'apôtre Paul pour les perdus est tellement évident. Lui, dans ses voyages missionnaires, lui, dans son appel pour Dieu, un homme qui, toute sa vie, a fondé des églises, annoncé l'Évangile, persécuté pour l'Évangile. Il n'y a pas de contradiction dans la tête de Paul avec le fait que Dieu est souverain et il choisit, et le fait qu'il doit annoncer l'Évangile à tous. L'apôtre Paul réalise quelque chose. Il y a les choses cachées et les choses révélées. Vous connaissez ce verset-là? Je me rappelle, mon oncle m'avait dit un jour, Michel, si t'es mal pris, cite ce verset-là d'une question. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées appartiennent à nos enfants. Il y a des choses cachées. Qu'est-ce qui est caché? Les noms de ceux qui ne sont pas révélés. Les noms ne sont pas révélés. Et c'est Spurgeon qui disait ça. J'en ai lu tellement d'anecdotes, je mélange les noms. Qui disait que si les appelés de Dieu auraient comme une marque en dessous de leur chemise, au lieu de prêcher, ils iraient lever les chemises pour voir la marque. Mais personne ne le sait. Ça appartient à l'Éternel. Le livre est scellé. Éphésiens 1, hein, vous connaissez? On est dans le livre. Avant la fondation du monde, Dieu nous a choisis. Mais tu ne sais pas qui? C'est-tu dur à comprendre? Vous comprenez pourquoi la poussée pour aller évangéliser, la poussée pour aller de l'avant avec l'Évangile est tellement importante? Et on va voir dans les deux autres semaines toutes sortes d'exemples dans les Actes. Mais c'est juste pour vous montrer que la compassion de l'apôtre Paul pour les perdus n'est pas en conflit avec la souveraineté de Dieu dans l'élection. Et si on sait que tous les noms sont dans les classeurs célestes, dans le livre qui est pour nous inaccessible pour le moment, Dieu nous a laissé un mandat comme Église. Priez pour les perdus. Moi, j'aimerais avoir le cœur de l'apôtre Paul. Pas vous? Aimeriez-vous ça avoir un cœur comme l'apôtre Paul pour ceux qui n'ont pas Jésus-Christ? Un cœur comme lui, là, qui était en prison, qui a subi toutes sortes de choses. Moi, j'aimerais ça avoir un cœur comme lui. Comment est-ce qu'il faisait, Paul? Quelles sont les choses révélées? OK, on a parlé de la chose qui n'est pas révélée, mais qu'est-ce qui est révélé? Si on pourrait parler des choses révélées rapidement ce matin. 1 Jean 2, 1b à 2 dit quoi? Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le Juste. Il est lui-même victime expiatoire pour nos péchés. Et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Ça, c'est révélé. Une autre chose qui est révélée, c'est que Christ a aimé l'Église et s'est livré pour elle. C'est pour elle qu'il s'est livré. Ça, c'est révélé. Qu'est-ce qui est révélé? Priez le maître de la moisson. Persévérez dans la prière. Voyez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes et je fais connaître comment je dois en parler. Wow, Paul, voyons, Paul, tu es un grand évangéliste, puis tu demandes la prière pour que le Seigneur ouvre les portes. Tu demandes la prière pour savoir de quelle manière annoncer l'Évangile aux perdus. Oui. Des belles requêtes, hein? C'est deux belles requêtes de prière pour chacun de nous, n'est-ce pas? Seigneur, prépare. Prépare les cœurs des gens que je vais rencontrer cette semaine. Seigneur, prépare mon cœur. Fais-moi connaître de quelle manière je vais approcher cette personne-là pour lui annoncer l'Évangile. On a besoin de prier pour cela. Voyez-vous, la souveraineté de Dieu, l'élection de Dieu, n'enlève pas la responsabilité de l'homme de prier pour les perdus. N'enlève pas la responsabilité de l'homme d'aller par toutes les nations faire des disciples. Qu'est-ce qui est révélé? Prier pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ça, c'est révélé. Allons-y. Oubliez le livre secret, là, où tous les noms sont dedans. Allons-y. Annonçons l'Évangile. La grâce commune de Dieu, la grâce de Dieu et la grâce spécifique. Où ce que Dieu dans le cœur de l'homme va saisir le cœur et amener la personne au pied de la croix. Et tout cela vient de Dieu, vous qui êtes une nouvelle créature. Et c'est ça la grâce, source de salut pour tous les hommes. Qu'est-ce qui est révélé? C'est intéressant. Cette semaine, je voulais prendre quelques exemples, et j'ai choisi qu'une. J'ai choisi celle-là. Vous avez déjà lu hein, dans Actes 16, 14. L'une d'elles, nommée Lydia, marchande de pourpre de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive à ce que Paul disait. C'est intéressant. Arrêtons-nous deux minutes. Paul est en train de parler. Et avec Paul, Paul est devant elle. Paul ne sait pas que son nom est écrit dans le livre de vie. Êtes-vous d'accord? Non? Faites un petit oui, sinon. Êtes-vous d'accord? Et eux, êtes-vous d'accord avec ça que Paul ne savait pas qui? Mais il est complice avec le Seigneur. Qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il rouvre le cœur. Avez-vous déjà annoncé l'Évangile à quelqu'un? Puis ça te tombe dans les mains comme une pomme mûre. Tu ne sais même pas ce que tu as fait de spécial. Hein, François, quand on allait dans la maison évangélisée? C'était mûr. Ça te tombait dans les mains. Tu te disais, waouh, ça serait de même tout le temps. Non, c'est pas de même tout le temps. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager dans l'évangélisation. Alors, c'est important de savoir que le Seigneur est avec nous et c'est lui qui ouvre le cœur. Pas question de vous péter les bretelles parce que vous avez conduit quelqu'un au Seigneur. C'est le Seigneur qui l'a emmené à vous et qui a fait en sorte que le Seigneur a visité la personne, le Seigneur a ouvert le cœur de la personne et vous, vous avez été un disciple qui a fait tout simplement ce qu'il avait à faire puis qui a été là où le Seigneur l'a conduit puis a partagé l'Évangile. C'est intéressant, ça. Une autre chose qui est révélée, c'est que Dieu ne prend aucun plaisir dans la mort du méchant. C'est intéressant dans Ézéchiel 18, 23, « Ce que je désire, est-ce que le méchant meurt? Est-ce que le méchant meurt? » Dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? N'est-ce pas qu'il change de conduite et qu'il vive? C'est ça que Dieu veut. Et l'autre verset qui nous dit, « Car je ne désire pas la mort de celui qui meurt, dit le Seigneur, l'Éternel, convertissez-vous donc et vivez. » Voyez-vous, c'est ça qui est révélé dans la parole. Un message de conversion, un message de nouvelle vie, un message à proclamer, un évangile à démontrer et présenter Christ aux gens qui sont nos contemporains. L'apôtre Paul va dire ceci dans 2 Pierre 3:9, « Le Seigneur n'attarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Ça, c'est révélé. Dans notre perspective à nous, on ne connaît pas les noms, on annonce l'Évangile, puis sois persuadé que Dieu, dans sa grâce, veut que l'Évangile soit annoncé partout. Et n'oublions pas, la souveraineté de Dieu n'amoindrit pas la responsabilité de l'homme. Jamais. Et c'est pour ça qu'on arrive avec l'argumentation de l'apôtre Paul. Frères, le vœu de mon cœur, ma prière pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. C'est qu'Israël soit sauvé. Israël soit sauvé. Ce peuple choisi de Dieu. Et il va dire ceci, je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, ne connaissant pas la justice de Dieu, et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Et voilà la complexité de l'apôtre Paul. Il veut expliquer aux Juifs que leur orientation à gagner la justice de Dieu par les œuvres ou par les lois est futile. Cette course futile. Il veut leur expliquer que la loi ne sauve pas. Les 613 lois qu'ils ont faites, avec un verset qu'ils appuyaient de l'Ancien Testament, la manière de faire les choses pour gagner la faveur de Dieu, c'est pas ça. Et même dans l'Ancien Testament, le juste vivra par la foi. comme dans le Nouveau Testament. En fin de compte, c'est la même chose. Et Paul veut vraiment leur dire, Israël, non, tu n'es pas justifié par la loi. Israël, tu as rejeté ton Messie. Israël, c'est prouvé que tous... Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. L'apôtre, il faut qu'il démontre dans ses chapitres la place d'Israël, le salut d'Israël. Il faut qu'il démontre que l'Israël va venir au salut de la même manière que l'Église, parce que la méthode de l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir, et avec les faux enseignants, les faux prophètes et la manière de faire les choses, ça avait distorsionné l'Évangile. Au lieu de placer leur foi dans le Messie qui était pour venir, ils étaient là mal pris dans un système religieux extrêmement. Si vous prenez le temps de lire Matthieu 23, vous allez voir que c'était très, très lourd et le Seigneur était très, très sévère envers eux. En fin de compte, la clé, et là je réalise que le temps passe, la clé pour ouvrir le texte de Romains 10, 5 à 8, et Deutéronome 30, 12 à 13, et c'est important de réaliser dans tout ça, frères et sœurs, que car Christ est la fin de la loi. Il ne faut pas s'enfarger rendu là. Hein? Christ est la fin de la loi, mais quelle loi? La loi morale? Est-ce que Dieu a changé sa morale? Non. Est-ce que Dieu a changé les lois lévitiques? Il est venu accomplir quoi? La loi judiciaire? C'est quoi la fin de la loi? C'est quoi l'accomplissement de la loi? Car Christ est l'accomplissement de la loi. C'est le seul homme qui a pu accomplir la loi sans faillir. On cherche quelqu'un. Où est celui qui va vivre par la loi et vivre? Regardez bien. Paul dit ceci. Paul explique que la foi en Christ comme Seigneur et Sauveur met fin à la quête futile de justice du pécheur qui tentait d'obtenir le salut en faisant des efforts personnels pour obéir à la loi. Des efforts personnels pour obéir à la loi. Paul, en disant cela, vient dire à Israël, arrêtez votre course en essayant de faire ce que la loi dit pour vivre par elle. La loi est légitime, la loi est bonne. La loi est un pédagogue qui nous conduit à Christ. La loi est un miroir qui nous dit qu'on est incapable de vivre et de gagner notre ciel par des ordonnances, des règlements et des lois. Alors Moïse, dans Deutéronome 30, 12, va dire ceci, « Il n'est pas dans le ciel. Cherchez-les, les gars, où est-ce qu'il est? Qui montera pour nous? Hein? Pour nous au ciel, il ira nous le chercher. Où est-il? Qui nous le fera entendre? » Alors Moïse, là, va prophétiser, il cherche, parce que Moïse dit la même affaire. Il n'est pas de l'autre côté de la mer. Où est-il? Qui va aller l'autre bord de la mer? Où ça se trouve, ça? Celui qui accomplit la loi. On le cherche. C'est une chose, au contraire, qui est tout près de toi. Dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Où est-il? Est-ce que c'est toi qui peux mettre la loi en pratique? Est-ce que c'est toi qui vas justifier avec la loi? L'apôtre Paul veut dire à ses Juifs, à Israël, « Israël, tu as beaucoup de connaissances, mais tu as un zèle sans intelligence parce que tu ne reconnais pas la justice qui vient de Dieu. Tu essaies encore de te justifier devant Dieu par les œuvres, par la loi. » Alors Romains 10 va encore mettre l'emphase là-dessus. En effet, Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. L'homme mettra ces choses en pratique et vivra par elles. Mais qui? Qui va vivre par elles? Qui a réussi dans l'Ancien Testament à vivre selon la loi et vivre mettre toute la loi en pratique. Il n'y en a pas. Et c'est pour ça que Jacques va dire la même chose. Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul commandement, devient coupable de tous. La loi n'est pas faite pour cela. Israël, comprends Israël. Accepte ton Messie, la justice qui vient de ton Messie. Paul va citer Moïse, comme on a vu tout à l'heure. Et on voit ici cette citation, Romains 10, 6, « Mais voici comment parle la justice qui vient de la foi. Ne dis pas dans ton cœur qui montera au ciel, c'est en faire descendre Christ. » Voyez-vous, il remplace Christ par la loi. Vous remarquez? Quand il fait la citation, il prend la citation de Moïse, puis il parle de Christ. Au qui descendra de l'abîme? C'est d'en faire remonter Christ, d'entre les morts. Et je crois que ce qu'on peut avoir le lien entre Romains 10 et Deutéronome 30, 18, on voit dans l'esprit qu'est-ce que Paul essaye de démontrer à Israël, qu'est-ce que Paul essaie de démontrer par rapport à la citation de Moïse. Et Moïse le dit lui-même, « L'Éternel, ton Dieu, circoncisera ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. » Voyez-vous, même Moïse dans l'Ancien Testament a dit, « À quelque part, il va arriver quelqu'un qui va accomplir la loi. » Et ce quelqu'un va circoncire ton cœur. Il ne travaillera pas nécessairement sur ton comportement. Habille-toi comme ça, mets-toi une cravate, mets-toi pas de cravate, des sujets noirs, pas de sujets noirs. Il va travailler sur ton cœur. Il va viser ton cœur. Et remarquez dans le chapitre 10, le cœur, la bouche, le cœur, la bouche, le cœur, la bouche. C'est notre deuxième semaine, le cœur, la bouche. Et c'est cela que Paul est en train d'expliquer à Israël. Israël, ne mets pas ta confiance dans tes efforts à accomplir la loi pour être juste devant Dieu. Personne ne peut être juste devant Dieu en accomplissant la loi. Un seul a accompli toute la loi. Un seul est la fin de cette loi, dans le sens que Jésus est sans péché, sans défaut, sans tâche. L'homme parfait de Dieu est le Dieu parfait des hommes. Ézéchiel va nous dire ceci, 11, 19, « Je leur donnerai un même cœur et je mettrai en vous un esprit nouvel. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. Israël, je vais viser ton cœur, toi qui as passé tellement de temps à essayer de te rendre juste devant moi par tes rituels et par ton effort d'être juste devant moi par toutes sortes de choses, où ton cœur n'était pas converti. Tu faisais des sacrifices. 1 Samuel 15 nous dit, « Je prends pas plaisir aux holocaustes, aux graisses des béliers. Dieu prend plaisir à l'obéissance. Et l'obéissance vient lorsque le cœur est circoncis par l'Esprit de Dieu. » Et c'est ça que Paul est en train de nous dire. Il y en a un qui compare les trois chapitres d'un sandwich. Il dit, chapitre 9, c'est une tranche de pain. Chapitre 11, c'est une tranche de pain. Puis moi, je suis tombé dans la protéine. Fait que c'est intéressant. Et la justice qui vient de la foi en Jésus-Christ. Je termine avec le verset 8. Regardez bien. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, nous dit Paul. Et c'est la parole de la foi en Jésus. Si on voit le mot foi, il faut mettre en Jésus. Que nous prêchons dans la bouche, dans ton cœur. Et c'est pour cela. Le désir de mon cœur, ma prière pour eux. Paul dit, moi je prie. Est-ce que nous prions? Nos enfants, notre maman, notre papa, notre belle famille, nos amis, nos voisins, nos ennemis. Est-ce que nous sommes en prière pour que le cœur soit converti? Au lieu de dire, ah lui, il n'est sûrement pas appelé, il est trop méchant. Ça ne comprend pas des deux bouts. C'est bouché des deux bouts. On dit ça des fois, du monde dur. J'aimerais vous montrer quelque chose. Je vais terminer avec ça. C'est le désir de mon cœur et la prière pour vous. George Mueller, en 1834, dans son dans son journal, il écrivait ceci. Regardez bien. Il a prié 6 mois pour quelqu'un qui est venu au Seigneur. Il a prié 2 ans chaque jour pour quelqu'un qui est venu au Seigneur. Il a prié 7 ans pour quelqu'un qui est venu au Seigneur. Il a prié 10 ans pour quelqu'un qui est venu au Seigneur. Puis il y en a un autre qui, ça faisait 19 ans et 6 mois qu'il priait, puis il n'est pas venu au Seigneur encore. Il a prié. Voyez-vous, lorsque mon titre, quand je disais la souveraineté de Dieu et la compassion pour les perdus, c'est là que je vais en venir ce matin. Manquons pas le message du chapitre 10. Manquons pas ce message que la justice s'obtient par la foi seule, dans le sacrifice seul de Jésus-Christ, et on devient enfant de Dieu, et on ne sait pas qui a été appelé. Donc, l'Église est mandatée par Dieu, et ça va être un sujet pour le troisième message, est mandatée par Dieu pour annoncer, pour proclamer cette bonne nouvelle que Dieu nous a donnée. Et si on est paralysé dans l'évangélisation, par le fait que Dieu a choisi d'avance, le fait que Dieu a appelé, le fait que Dieu a écrit dans un livre de vie avant la fondation du monde, les élus. C'est seul Dieu qui connaît ça, nous on ne le sait pas. Notre mandat, notre responsabilité de l'homme, c'est d'annoncer cette bonne nouvelle et de prier. Est-ce qu'on prie à l'Assemblée du Cap? Est-ce qu'on prie pour le salut des âmes? Est-ce que nous sommes, comme l'apôtre Paul, un chagrin continuel pour ceux qui ne connaissent pas Christ? J'espère que oui. Êtes-vous d'une cellule de prière durant la semaine? Vous n'avez pas, venez me voir, je vais vous en trouver une. Est-ce que vous réalisez que la persévérance dans la prière, pour prier pour les perdus, c'est ce que Dieu a révélé dans sa parole pour nous. Les choses cachées appartiennent à l'Éternel, les choses révélées au Fils de l'homme. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce matin. Moi, le premier, Seigneur, je me place devant toi et je dois confesser que j'ai manqué de persévérance dans la prière. Et on veut ensemble, Seigneur Dieu, ce matin, se consacrer à toi ensemble, comme peuple de Dieu qui prie pour les âmes perdues. Donne-nous, Seigneur, un zèle qui vient de toi. Donne-nous un cœur comme l'apôtre Paul, qui continuellement avait un chagrin dans son cœur pour ceux de sa race. Donne-nous un chagrin dans notre cœur pour les Québécois. Ô Seigneur Dieu, donne-nous un chagrin continuel pour nos contemporains qui s'en vont en enfer direct sans toi. Donne-nous d'annoncer cette parole. Donne-nous d'obéir à ta parole. Donne-nous de proclamer la justice qui s'obtient par Jésus seul. Seigneur Dieu, parle à nos cœurs et aide-nous, Seigneur, dans ta grâce. Sois complice avec nous. Seigneur, prépare des cœurs déjà, Seigneur. Amène-nous là où ce que tu nous veux afin qu'on puisse partager cette bonne nouvelle que tu nous as confiée. Fais de nous, Seigneur, des chrétiens engagés, donc le cœur est circoncis et que notre bouche parle. Et c'est en ton nom qu'on te prie, Seigneur Jésus. Amen. Amen.